Roman des poètes, l'émission vagabonde de la BIP. Si la poésie ne vous aide pas à vivre, faites autre chose.
Si la poésie no te ayuda a vivir, hace otra cosa.
If poetry doesn't help you to live, then do something else.
Se la poesia non vi aiuta a vivere, allora fate qualcos'altro.
Shiri e Shamzayar Njom Musa, Bashka Bishay.
L'émission quinzomadaire de la BIP, Brigade d'intervention poétique, Michel Armatz et compagnie. Une émission pour raconter la vie des grands poètes, connus ou pas connus. Avec au gré des émissions, les voix de Charo Beltran, Thérèse Bonetta, Cécile Combredet, Florence Mourieras et messieurs Christian Boisson, Jean-Claude César, Yves Flanque, Julien Gill, Marc Pastor, Patrick Vendrin et Michel Arbatz.
Si la poésie vous aide pas à vivre, faites autre chose.
Bonjour, bonjour, nous sommes dans le jardin de la Maison des Relations Internationales pour cette émission très particulière qui a lieu dans le cadre de la Comédie du Livre à Montpellier. Et c'est une émission qui, comme toute cette manifestation, est consacrée aux écrivains et aux auteurs scandinaves. C'est une émission un peu spéciale puisqu'on l'a fait avec deux classes entières de lycée et de collège. La classe de Magali Francezon du collège Via Domitia au Crès, hein, je ne dis pas de bêtises, et la classe de Marie Gola, une classe de seconde au lycée Champollion à Latte. Voilà. Et on a préparé cette émission dans les deux mois qui précédaient. Tout le monde va dire des textes de poètes et d'auteurs scandinaves. C'est une émission un peu spéciale aussi parce que pour trouver un lien au déroulé de cette émission, on a choisi de raconter donc Charo Beltran et Cécile Combredet avec moi, Charo et Cécile qui ont travaillé donc avec les élèves de ces classes, de raconter une nouvelle, un racontard, c'est le cas de le dire, de Jørn Riel, qui est un écrivain danois qui est d'ailleurs présent ces jours-ci à la Comédie du Livre. Cette nouvelle s'appelle « Un petit détour », hein, et vous allez voir, c'est la mésaventure de deux personnages perdus sur la banquise. Et on va commencer par ce récit. Cécile va commencer à nous le dire. Et au fur et à mesure du récit, les élèves interviendront pour dire des poèmes qui viennent en écho de ce récit.
Le lieutenant Hansen, assagi, s'était donc installé dans la station de Finnbull. Walfred était sans compagnon depuis longtemps. On observa cette association avec beaucoup d'intérêt, et on avait même engagé certains paris concernant le temps que ces deux-là pourraient se supporter. Naturellement, on avait pris la précaution de donner au lieutenant quelques connaissances de première main sur les conditions de vie au Groenland, en le laissant suspendu par une corde dans une crevasse de glacier pendant quelques heures. Petite expérience dont on était certain qu'il avait pris bonne note. Mais jusqu'à quel point la leçon avait porté, personne ne le savait. La plupart craignaient le pire. Mais Walfred ne se faisait pas de soucis. De toute façon, il était rare que Walfred se soucie de quoi que ce soit. Il avait un don presque oriental pour laisser les choses évoluer sans se faire de soucis. Il ne se mêlait jamais des affaires des autres, et si les autres se mêlaient des siennes, il montait dans sa couchette, tournait le dos au monde et dormait.
Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas, vivre ensemble. Aimer à loisir, aimer et mourir, au pays qui te ressemble. Les soleils mouillés de ces ciels brouillés, pour mon esprit ont les charmes si mystérieux de tes traîtres yeux brillant à travers leurs larmes. Là tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté.
Des meubles luisants, polis par les ans, décoreraient notre chambre, les plus rares fleurs, mêlant les odeurs aux vagues senteurs de l'ambre, les riches plafonds, les miroirs profonds, la splendeur orientale, tout y parlerait, à l'âme en secret, sa douce langue natale.
Là tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté.
Vois sur ces canaux dormir ces vaisseaux dont l'humeur est vagabonde. C'est pour assouvir ton moindre désir qu'ils viennent du bout du monde. Les soleils couchants revêtent les champs, les canaux, la ville entière. D'hyacinthe et d'or, le monde s'endort dans une chaude lumière.
Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté.
Sur l'image en éclat, de la barque tardive, le cœur est fendu en deux et ne sait ce qu'il veut. La barque doit aller pour lui, jour ou nuit, de son qu'un rideau changeant à traverser. Avancer d'un courage farouche, pas à cause des hommes, à cause d'énigmes embarrassantes. Le cœur est fendu en deux, en grand secret.
Il y a du mouvement, de la vie dans la barque, se forme des rangées d'images. La barque avance avec un courage que nul ne comprend. Ceux qui restent à terre entrevoient sa course parmi les silhouettes. Beaucoup d'inattendus s'y mêlent. Ce ne sont pas des nouveautés non plus. Elles ont déjà été là.
Ce n'est pas cela qui vient des rives proches, des rives séduisantes. C'est en toute hâte une petite salutation.
Oui.
Crie-t-on de la rive d'une voix à peine audible.
Oui.
Répond-on tout aussi lentement de la barque.
C'est tout. C'est comme si le temps qui change n'existait pas.
Nous venons d'entendre l'invitation au voyage de Baudelaire par Christine et Ophélie et le deuxième avant-propos de Tarjei Vessas par Florian et Benjamin.
C'est pour ça.
C'est le lieutenant qui proposa qu'avec le canot à moteur, ils mènent une offensive contre l'ennemi dans le fjord des glaces. Ça grouillait, paraît-il, de phoques à cet endroit. Mais Valfred ne voulait pas venir. Même quand Hansen le tenta avec bivouac confortable et cuisine roulante avec deux repas chauds par jour, dessert inclus, Valfred resta inébranlable. Il avait autre chose à faire que de batifoler dans le fjord des glaces pour quelques phoques marbrés. Le soleil chauffait encore assez pour rester assis sur une chaise dehors à somnoler et les bœufs musqués paissaient sur les pentes vertes de Fimbul, venaient quand on les sifflait et se laissaient abattre sans formalité. C'est seulement quand le lieutenant fit teinter deux bouteilles de genièvre qu'il avait achetées à bord de la Vesle-Marie que Valfred baissa pavillon.
Jolie bouteille, sacrée bouteille, veux-tu me laisser tranquille? Je veux te quitter, je veux m'en aller, je veux recommencer ma vie. J'ai traîné dans tous les cafés, j'ai fait la manche bien des soirs. Les temps sont durs, suis même pas sûr de me payer un coup à boire. Jolie bouteille, sacrée bouteille, veux-tu me laisser tranquille? Je veux te quitter, je veux m'en aller, je veux recommencer ma vie. J'ai mal à la tête et les punaises me guettent, mais que faire dans un cas pareil? Je demande souvent aux passants de me payer une bouteille. Jolie bouteille, sacrée bouteille, veux-tu me laisser tranquille? Je veux te quitter, je veux m'en aller, je veux recommencer ma vie. Dans la nuit, j'écoute la pluie, un journal autour des oreilles. Mon vieux complet est tout mouillé, mais j'ai toujours ma bouteille. Jolie bouteille, sacrée bouteille, veux-tu me laisser tranquille? Je veux te quitter, je veux m'en aller, je veux recommencer ma vie. Chacun fait ce qui lui plaît, tout le monde veut sa place au soleil. Mais moi je m'en fous, je n'ai rien du tout, rien qu'une jolie bouteille. Jolie bouteille, sacrée bouteille, veux-tu me laisser tranquille? Je veux te quitter, je veux m'en aller, je veux recommencer ma vie.
philosophe rêveur.
Qui pensait tout savoir, ennemi de Bacchus.
Rentrez dans le devoir.
Vos esprits s'en font trop pas croire.
Allez, vieux fou, allez apprendre à boire. On est savant quand on boit bien.
Qui ne sait boire, ne sait rien. S'il faut rire
ou chanter au milieu d'un festin, un docteur est alors au bout de son latin.
Un goinfre en a toute la gloire.
Allez, vieux fou, allez apprendre à boire.
Pourtant, quand on est las de se crever les yeux, de se creuser le front, de se fouiller le ventre, sans trouver de raison à rien, lorsque l'on rentre, fourbu d'avoir plané dans le vide des deux, il faut bien oublier les désirs anxieux, les espoirs avortés, et dormir dans son antre, comme une bête, ou boire à plus soif comme un chantre, sans penser.
Soulons-nous, buveurs silencieux. Oh, les douze opiums, l'abrutissante extase, bitter, grenade brûlée, vermouth, clair topaz, absinthe, les troublés d'émeraude. Versez, versez, ne cherchons plus les effets ni les causes. Les gueules du couchant dans le cœur terrassé vomissent de l'absinthe entre leurs lèvres roses.
Celui qui boit, comme a chanté Nicandre, de l'aconite, il a l'esprit troublé. Tous ceux qu'il voit lui semblent estre doublés, et sur ses yeux, la nuit se vient espandre. Celui qui boit, de l'amour de Cassandre, qui par ses yeux au cœur est écoulé, il perd raison, il devient affolé. Cent fois, le jour, la part que le vient prendre, mais la chaux vive, ou la rouille, ou le vin, ou l'or fondu peuvent bien mettre fin au mal cruel que l'aconite donne. La mort, sans plus, a pouvoir de guérir le cœur de ce que Cassandre empoisonne, mais bienheureux qui peut ainsi mourir.
Nous venons d'entendre Guyliane et Clément pour Philosophe Rêveur. Tanguy et Sacha nous ont dit le poème de Jean Richepin, Sonné ivre, et Duncan, le texte Celui qui boit de Pierre de Ronsard.
On prépara donc le canot à moteur de la station, la mule, ainsi nommée parce que la manivelle de démarrage avait une fâcheuse tendance à regimber. Au milieu de l'embarcation, on installa une paillasse de foin sec, Valfred s'y coucha, et le lieutenant prit place derrière le gouvernail. Et ils sortirent de la baie de Fimpul en faisant touc 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 touc. Un militaire entraîné comme le lieutenant n'avait aucun mal à s'orienter. Les fjords couraient comme des rues dans le quartier d'une vieille ville. Et Hansen savait qu'il devait tourner à gauche deux fois de suite, puis une fois à droite, passer l'embouchure d'un fjord, et enfin tourner à droite pour entrer dans le fjord des glaces. Là, on trouvait le glacier et les phoques. Qu'Hansen se soit abandonné à la contemplation de cette superbe nature ou qu'il ait eu du mal à discerner les entrées des fjords en question, ça... Toujours est-il qu'après avoir réveillé Valfred non sans difficulté, il lui annonça qu'il se trouvait maintenant dans une mer libre de trois côtés, que la côte était loin derrière eux et ressemblait au dos d'une horde de dinosaures au package. Valfred se revigora avec une rapidité étonnante à l'annonce d'Hansen. Un regard rapide au-dessus du bastingage, et il put déterminer leur position réelle. « D'où Jésus, si tu continues dans cette direction, petit lieutenant, dans quelques jours on pourra accoster en Islande et y acheter de l'eau-de-vie rectifiée. » Avec un gémissement, il quitta sa paillasse et prit le gouvernail. Le lieutenant s'installa à la proue, repassant en pensée sa navigation afin de trouver l'endroit où il avait bien pu se tromper.
Il garda un troupeau pour moi, le garda.
Il garda un troupeau pour moi, le garda.
De nombreux borènes disparurent sur le glacier ou la violi. Mais maintenant, je suis devenu vieux.
Devenu vieux.
Devenu vieux.
Les plus grands ont changé.
Ont changé.
Ont changé.
Les blancs neiges.
Les rayés.
Les blancs gris.
Les reines avec leurs bois en avant, avec leurs cornes s'agitant. Quand j'étais homme sur l'Oulavioli, l'Oulavioli.
Quand j'étais homme sur l'Oulavioli, l'Oulavioli.
Quand j'étais homme sur l'Oulavioli, l'Oulavioli, l'Oulavioli.
Un homme était sous le glacier Oulavioli, un être humain est assis dans la tente et souffle. Agite le feu.
Agite le feu.
Souffle.
Souffle.
Souffle fort.
Réunis les braises.
Souffle.
Et c'était nous deux, notre mémoire sur nous disparaît.
Disparaît.
Nous nous rappelons et avons oublié, nous sommes tous de vieux.
Danser
pour découvrir le mouvement de la Terre parmi les planètes.
Danser
pour découvrir un abri contre la peur.
Danser
pour découvrir aussi notre présence, une chaleureuse solidarité.
Nous sommes si petits si l'on se compare et c'est si bon, si parfait.
Et pourtant si ressemblant à de grandes planètes qui dansent et c'est si bon, si parfait.
Laure, Léane et Théo nous ont dit « Il garda un troupeau », un poème de Nils Mathias Andersson. Puis Garance, Salomé, Camille et Ryan nous ont dit « Danser pour découvrir », un poème de Sigurdur Pelson. Auparavant, on a entendu un petit extrait de chant des Samis. Les Samis, ce sont ces éleveurs de rennes. On appelle ce chant le yoik. Et puis, il faut dire aussi que tout au long de ce récit de Yornril, c'est Jan Garbarek qu'on entend, ou plutôt on entend la harpe éolienne qui accompagne son titre Vanderen. Le soir venu, ils établirent un camp près du fjord des glaces, dans une petite baie nommée la baie des crocodiles. Non qu'il y ait des crocodiles, mais parce qu'il y avait deux rangées d'écueils dentés invisibles à marée haute. La tente fut montée et le réchaud allumé. La baie était incroyablement belle. Les restes de la glace de l'hiver brillaient à la manière de sculptures blanches, comme jetées par un artiste dans l'eau verte et paisible. Les seuls mouvements perceptibles, c'étaient les ombres des nuages d'été flottants et des petites ondes concentriques provoquées par la glace qui dégoulinait. À l'extrémité nord de la baie s'ouvrait une large vallée entre de sombres parois de montagne. Le fond de cette vallée était couvert de bruyères en fleurs et scintillait de couleurs bleues et violettes. Sur les parois sombres s'étalait une couverture de vieille neige d'un blanc sale et au fond de la vallée, l'Inland 6 se dressait comme une immense muraille noire. Du fjord des glaces, on entendait le fracas du glacier qui glissait lentement. Le bruit venait comme l'écho de quelque chose d'infiniment lointain, impression renforcée par le son du ruissellement d'une chute d'eau toute proche. Même Valfred se laissa transporter par cette vision. Il lui sacrifia son premier sommeil et s'installa dans l'ouverture de la tente pour jouir du panorama. « Eh oui, cher Hansen, dit-il à voix basse, toi, c'est pas à Fredericia que t'aurais pu voir ça, sacré bon Dieu. » C'est si joli que je crois que même le tatoueur aurait pas été foutu de repiquer ça. Et Crénon, c'est pourtant bien le plus grand artiste que j'ai jamais rencontré, je t'assure. Le lieutenant hocha la tête. Pendant longtemps, il n'arriva pas à dire un mot. Le soleil descendait entre les pics blancs des hautes montagnes et envoyait de larges faisceaux de rayons blanc-argent sur l'eau verte et par endroits tout à fait noirs du fjord. Ça brillait et étincelait de plaques de glace fragilisées par l'été et les prairies qui s'étendaient de la vallée jusqu'à la plage devinrent rouges et roses dans le soleil du soir.
lumière de neige sur le sol, nous patinions sur le lac comme un essaim de mouches quand la nuit tomba. Alors, un immense rocher émergea du soir, calme et fort, et le ciel couronné d'étoiles, tête sur la terre blanche.
Des formations de glace apparaissent au moindre souffle. Ma fourrure me couvre comme un maillot de corps. Il fait 25. Mais au cœur de moi, rougeois calmement une veilleuse. Oh mes pensées pour toi, danse à jamais. Rougeois prête à s'enflammer passionnellement.
Nous venons d'entendre Garance, Salomé, Camille et Erwan pour Abri, ainsi que Loïc, Anthony, Mathéo pour Lumière de neige sur le sol, et enfin Valentine, Mathéo, Anthony et Gaël pour Amour nordique.
Derrière la baie, au fond du fjord, c'était le glacier. Il déboulait comme une large touche de peinture entre deux nœuds de montagne qui s'élevaient jusqu'aux nuages. De la tente, on voyait comment il avait poussé en avant et suspendu sa langue comme une immense toiture au-dessus de l'eau. Le lieutenant soupira profondément. Il écoutait avec émerveillement la glace glisser lentement. « C'est comme le roulement de tonnerre des canons » chuchota-t-il ravi à Valfred. Valfred noua ses mains au-dessus de son ventre. « Les tonnerres des canons que tu dis, toi ?» Mais non, Hansen, c'est la nature tout bonnement, la pure et simple nature. Voilà ce que c'est.
Si tu penses me demander pourquoi j'écris, pourquoi je fais des chansons, pourquoi j'écris des poèmes, alors va à la grande rivière qui écume et s'agite sur le flanc de la montagne. Penche ta tête vers l'eau et demande-lui.
Pourquoi j'aillerai éternellement ?
Et l'eau te répondra ainsi.
Monte sur le sommet de cette immense montagne, là-haut, dans le calme et le silence éternel, tu trouveras la source murmurante, dont je viens, dont j'ai eau, dont j'ai force et puissance.
Va, et demande à cette source.
Pourquoi tu jaillis toujours en murmurant ?
Je suis un bateau sans vent, tu étais le vent. Était-ce le cap que je devais prendre ? Qui se soucie du cap quand on a un tel vent ?
Rémi, Pauline et Paloma nous ont dit le texte « Explication » de Moses Olsen et nous avons entendu Clara pour « Tu étais le vent » de Olaf Hauge.
Le fjord des glaces grouillait de phoques. Sans cesse, on voyait les petites têtes noires sortir avec les plaques de glace, des petits ballons ronds aux moustaches hérissées et de grands yeux candides. Quand Valfred sifflait de manière attirante, ils s'approchaient du bateau, poussés par la curiosité. Les premiers jours, ils abattirent 12 phoques marbrés qu'ils déposèrent près de la tente. Ils leur enlevèrent la housse, découpèrent les intestins et entreposèrent la viande sous un caërme. Ils jetèrent ce dont ils n'avaient pas besoin aux mouettes qui survolaient le lieu de dépeçage en poussant des cris aigus. Le soir, le lieutenant prépara des paupiettes et fit, selon la recette de Valfred, une soupe de nageoires de phoque et servit des myrtilles fraîches dans de l'eau de craie en dessert. Ce fut une soirée délicieuse, suivie d'une bonne nuit d'un sommeil bien mérité. Le lendemain, L'ivresse de la chasse saisit aussi Walfred. Il se leva déjà vers 10 heures, dégusta le magnifique petit déjeuner du lieutenant, constitué d'une bouillie d'avoine suivie d'un café et d'un cigare. Ils firent résonner leur touc-touc-touc à l'intérieur du fjord, s'installèrent tout près du glacier. Ils avaient déjà 3 phoques dans le bateau avant le déjeuner. « Si ça continue comme ça, souffla Walfred, on risque de devoir bouffer de la viande de phoque tout l'hiver. Faudrait voir à se calmer un peu. » Il regarda autour de lui. Là-bas, vers le cap, il montra la terre avec son index. « Il y a d'habitude beaucoup d'angéliques. Tu peux faire une jolie salade avec les peaux, Hansen, surtout si tu trouves un peu d'algues fraîches aussi. Je propose d'y aller et pendant que tu prépares le casse-croûte, je me couche pour réfléchir à ce qu'on va faire cet après-midi. » Hansen, à qui l'air maritime avait donné des crocs, acquiesça aussitôt. Il venait de s'installer les jambes écartées devant la problématique manivelle de démarrage quand l'accident se produisit. L'immense surplomb de glace que le glacier avait poussé au-dessus de l'eau céda et tomba avec un fracas étourdissant. La vague que ces milliers de tonnes de glace occasionnèrent souleva la mule vers le ciel et Walfred hurla au lieutenant de lancer le moteur. Hansen tourna la manivelle. Mais le violent tangage du bateau l'empêchait de garder son équilibre. « Démarre, Hansen !» hurla Walfred, qui couchait sur le matelas agrippé de toutes ses forces. Tout se passa si vite qu'aucun d'eux ne comprit la situation avant que tout soit fini. L'énorme vague ébranla tous les icebergs autour d'eux. Celui qui était le plus près du canot à moteur se comportait comme un mouflet qui apprend à marcher. Il tourna son pied vert clair comme du cristal vers le ciel, glissa sous le bateau qui dégringola sur la paroi lisse jusqu'au moment où il se coinça dans une profonde crevasse intérieure. Les pieds d'Hansen quittèrent les planches du fond et dans un superbe arc de cercle, il flotta par-dessus le bastingage et se retrouva dans l'eau, la tête la première. Walfred se redressa et regarda par-dessus bord avec étonnement. « Hansen !» hurla-t-il. « Hansen, où es-tu ?» L'iceberg bascula dans l'autre sens, vacilla un peu avant de retrouver son équilibre. Puis l'eau se calma et la tête d'Hansen émergea. Il était bleu comme un touareg, repeint à neuf et soufflé de l'eau comme une baleine. « Mais qu'est-ce que tu fous là, bordel ?» cria Walfred. « Je nage !» haleta le lieutenant. « Au secours, je me noie !» Walfred se leva, il grimpa vers le devant du bateau et lança l'ancre par-dessus bord. « Prends ça, petit Hansen, je te ramène !» Le lieutenant empoigna le métal glacé, mais ses mains transies avaient perdu toute force. « J'y arrive pas, Walfred !»« Alors, attache-la au fond de ton pantalon, fais quelque chose, Hansen, sinon je vais encore me retrouver seul pour l'année !» Le lieutenant réussit à tortiller le derrière de manière qu'un des crochets se prenne à la ceinture de son pantalon, et pour la deuxième fois dans sa courte existence en Arctique, on le tira d'une situation périlleuse. Walfred le déshabilla jusqu'à la peau et le coucha sur la paillasse. Il quitta son propre pantalon et son chandail islandais et les enfila sur Hansen. Ensuite, il l'installa dans son gilet de laine et ses longs caleçons feutrés à la poupe. Hé hé, Hansen, on a repris le dessus, hein ? Bordel de merde ! Hansen, dont la tête n'était pas encore claire, répondit tremblant de froid. Pourquoi tu dégages pas, Walfred ? Imagine s'il y a encore des morceaux qui tombent ! Walfred mâcha lentement sa réponse avant de la livrer comme s'il voulait la déguster. « Question glacier, il n'y a pas de danger, Hansen. Il ne va pas véler avant longtemps. Et question de partir, ah, ça c'est sûrement plus facile à dire qu'à faire. C'est comme qui dirait qu'il n'y a pas vraiment assez d'eau pour l'hélice à cette altitude. » Le lieutenant se leva sur un coude et regarda par-dessus le bastingage. Il ouvrit grand les yeux quand il se rendit compte de l'endroit où il se trouvait. « Mais nous sommes à cheval !» bégaya-t-il surexcité. « Comment t'as réussi à monter le bateau jusqu'ici, Walfred ?» « Eh oui, ça c'est à voir. Si je dois être parfaitement honnête, eh ben j'en sais foutre rien. Mais le plus important pour le moment, c'est peut-être plutôt comment redescendre, » répondit Walfred. L'iceberg les berçait gentiment. Il tourna lentement le dos au glacier et continua son voyage vers l'embouchure du fjord. Le bateau se trouvait à 10 mètres environ au-dessus de la surface et un diagnostic rapide révéla que la plupart des planches de la coque côté tribord étaient cassées. « C'est sûrement la mule qui t'a donné le dernier coup, » soupira Walfred. « Elle baille atrocement, petit lieutenant. Pour l'instant, l'endroit le plus sûr pour elle, c'est sûrement ici, sur cette étagère. Je crains qu'elle ait méchamment soif si elle retourne à l'eau. C'est incroyable. »
C'est le rêve que nous portons que quelque chose d'extraordinaire.
C'est le rêve que nous portons que quelque chose
C'est
d'extraordinaire.
C'est le rêve que nous portons que quelque chose d'extraordinaire
va arriver.
Que ça doit arriver.
Que le temps va s'ouvrir.
Que le cœur va s'ouvrir.
Que les portes vont s'ouvrir.
Que la roche va s'ouvrir.
Que les sources vont jaillir.
Que le rêve va s'ouvrir.
Qu'un matin,
nous glisserons sur la vague.
Nous glisserons sur la
nous
vague.
Nous glisserons sur la vague
vers une anse inconnue.
Iceberg sans garde-fou, sans ceinture ou de vieux cormorans abattus. Et les âmes des matelots morts récemment viennent s'accouder aux nuits enchanteresses de l'hyperboréal.
Iceberg. Cathédrale sans religion de l'hiver éternel, enrobée dans la calotte glaciaire de la planète Terre. Combien haut, combien pur sont tes bords enfantés par le froid.
Iceberg. D'eau du nord Atlantique, auguste Bouddha gelé sur des mers incontemplées. Phare scintillant de la mort sans issue, le cri est perdu du silence durant des siècles.
Iceberg. Solitaire sans besoin, des pays bouchés, distincts et libres de vermine. Parents des îles, parents des sources, comme je vous vois, comme vous m'êtes familier.
Guillaume et Malisa nous ont dit le poème de Olaf Hauge, c'est le rêve que nous portons. Et vous avez reconnu Iceberg d'Henri Michaud, dit par Camille, Hugo, Elouane et Tanguy.
Le lieutenant s'était réchauffé dans les vêtements de Valfred. Il regardait son compagnon avec des yeux ronds et vides. Comment on a pu atterrir ici comme ça sans rien ?
Bon, on peut peut-être pas dire sans rien du tout, estima Valfred. La nature est capricieuse comme une bonne femme, Hansen. Mais t'as raison, c'est incroyable. Si quelqu'un me disait qu'il avait balancé son bateau à une dizaine de mètres de hauteur sur un iceberg, j'aurais bien rigolé, avec ma petite idée derrière la tête. Il y a des gens qui aiment raconter ce genre d'histoire, Hansen. Et d'ailleurs, il y en a pas mal ici parmi nous. Ça doit être la nature qui en est responsable. Tout devient, comme qui dirait, agrandi. On s'habitue à la grandeur, pour ainsi dire. Et c'est sans doute pas un malheur non plus, c'est naturel, je crois. Exactement comme le fait qu'un chasseur ou un marin devient presbyte parce qu'il est toujours en train de regarder loin dans la géographie, et qu'un mangeur de livres devient myope parce qu'il a toujours un livre sous le nez. Il glissa une main sur son crâne. Je dois avouer que je n'ai pas vraiment pu suivre quand c'est arrivé. Ça allait trop vite à mon goût. Comme tu sais, j'arrive mieux à saisir les choses quand elles se passent à une vitesse raisonnable. Mais le glacier a vélé, l'iceberg s'est renversé, toi, t'es tombé dans la bassine et moi, j'ai pris de l'altitude. Ça, c'est sûr. Le lieutenant hocha la tête. Nous devons surtout essayer de nous souvenir de tous les détails, dit-il, parce que le rapport à la compagnie doit être précis. Valfred se frotta le menton et eut un rire gras. T'inquiète pas, Hansen, on aura vite fait de leur concocter quelque chose. Il regarda gentiment son compagnon. Pas de cuisine ici, corrigea Hansen. Un rapport doit être objectif et rendre compte de tous les détails. C'est aussi valable dans une compagnie de chasse qu'à l'armée. Valfred renifla. Bon, si tu veux. Mais ça complique considérablement les choses.
Parce que dans ce cas précis, la vérité peut être un peu difficile à établir. Comment, sacré bleu, veux-tu qu'on arrive à raconter une telle expédition au ciel de ton objectif et véridique ? Ça va pas, Hansen ! On va être obligé de godiller par-ci, par-là pour donner tout ça à un ton véridique.
Au cœur du plus profond, bat le réel de passage. Les vérités sont vraies jusqu'à ce soir. En danger, quand la pensée jette du feu, les vérités se défont la nuit suivante. Les matins luisent, tels de hauts et sur nuages, plongés dans le silence, habitent notre désir. Réels sont pour cela les rêves et le désir. Ils seront aussi les dernières choses que nous voyons tenir.
Nous venons d'entendre le texte de Tarjei Vessas, « Les dernières choses que nous voyons tenir », dit par Claire et Camille.
Voilà, je rajoute que nous sommes ici dans le jardin de la Maison des Relations Internationales pour l'enregistrement très particulier de cette émission sur les auteurs scandinaves. Alors, évidemment, on entend quelques cornes de brume de temps en temps dans les fjords de la Baltique, et vous les entendez peut-être aussi, et des oiseaux qui sont venus de façon un petit peu inhabituelle dans ce paysage de banquise. Thank you.
Au cours de l'après-midi, à bord de leur iceberg, ils passèrent à la hauteur de leur campement à terre. La tente s'est dressée grande, auréolée d'humidité et pleine de séduction. Les chasseurs la suivirent d'un long regard, surtout Valfred. Il pensa avec tristesse aux deux bouteilles de genièvre qui s'est trouvées dans la caisse à provisions, maintenant en pure perte. « C'est presque le pire, » dit-il à mi-voix. « Quoi ?» demanda le lieutenant. « Les deux bouteilles que tu avais apportées, maintenant elles sont là-bas sans personne pour les garder. Imagine qu'un ours vienne et fouille dans la tente, ou qu'un troupeau de bœufs les écrase. Ça, ce serait la catastrophe. » Dans ce cas-là, il n'y aurait qu'une de perdue, sourit le lieutenant, car l'autre se trouve dans mon sac à dos. Je l'avais apporté pour l'avoir à portée de main en cas d'urgence. Valfred ouvrit tout grand les yeux. Mon Dieu, quel bon sens! Tu es vraiment un compagnon exceptionnel, petit Hansen. Il lécha ses lèvres sèches.
Au vieux roi de Tulé, sa maîtresse fidèle avait fait en mourant, dont une coupe d'or, unique souvenir qu'elle lui laissait d'elle, cher et dernier trésor. Dans ce vase, présent d'une main adorée, le pauvre amant, dès lors, but à chaque festin. La liqueur, en passant par la coupe sacrée, prenait un goût divin. Et quand il y portait une lèvre attendrie, débordant de son cœur et voilant son regard, une larme humectait la paupière flétrie du noble et doux vieillard. Il donna tous ses biens, sentant sa fin prochaine, hormis toi, gage aimé de ses amours éteints. Mais il n'attendit point que la mort inhumaine t'arrachât de ses mains. Comme pour emporter une dernière ivresse. Il te vida d'un trait, étouffant ses sanglots, puis, de son bras tremblant surmontant la faiblesse, te lança dans les flots. D'un regard déjà trouble, il te vit sous les ondes, t'enfoncer lentement pour ne plus remonter. C'était tout le passé que dans les eaux profondes il venait de jeter. Et son cœur, abîmé dans ses regrets suprêmes, subit sans la sentir l'atteinte du trépas. En sa douleur, ses yeux qui s'étaient clos d'eux-mêmes ne se rouvrirent pas. Coupe des souvenirs qu'une liqueur brûlante, sous notre lèvre avide emplissait jusqu'au bord, quand nos derniers banquets d'une main défaillante nous soulevons encore, vase qui conservait la saveur immortelle de tout ce qui nous fit rêver, souffrir, aimer. L'œil qui t'a vu plonger sous la vague éternelle n'a plus qu'à se fermer.
Inès vient de nous faire partager le très beau poème de Louise Ackermann, La coupe du roi de Tulé.
On pourrait peut-être appeler ça un cas d'urgence, non ? Le lieutenant fit une moue et prit le temps de réfléchir. « Je ne sais pas, » répondit-il. « J'avais plutôt imaginé une jambe cassée ou quelque chose de ce genre. Je n'avais pas du tout pensé à ça. »« Mais il y a plein de choses cassées, » rétorqua Valfred, « et peut-être au moins aussi compliquées qu'une pauvre jambe. » Je pense que n'importe quel toubib raisonnable prescrirait un formidable schnapps pour toutes ces choses et pour le moral, tu comprends ? Ils sortirent la bouteille du sac à dos et en aspirèrent chacun un schnapps. Hansen prit des couleurs et Valfred grogna joyeusement à l'idée qu'il restait encore bien 26 schnapps sans faux col dans la bouteille. Voilà, Hansen. L'existence a beaucoup de visages. Et celui-ci n'est pas le pire que j'ai vu, dit-il d'un ton encourageant. Beaucoup de gens ont dû couvrir de longs parcours moins bien équipés que nous. Il regardait la bouteille de genièvre avec tendresse. Dans les grandes lignes. « Faut bien reconnaître que la vie est surprenante et merveilleuse à vivre. »«
Y a-t-il des questions ? Je suis de grand air et des torrents d'images déferlant ensemble s'injectent plus ou moins fort dans ma tête. Et nous devons tout dominer. Chaque mot est un mot de passe qui donne accès au monde et les étoiles sont de petites gouttes de sueur qu'il vise sur la peau de la nuit. Les choses nous sourient familièrement et nous font croire que c'est nous qui décidons. Nous disons... Il y a des endroits où l'on peut dire ce que l'on veut. Voilà, nous y sommes. Mais ça ne s'explique pas.
Nous venons d'entendre Erwan pour Ça ne s'explique pas.
De Morten Søndergaard.
Thank you.
Le lieutenant ne répondit pas tout de suite. C'était comme s'il n'était pas tout à fait sur la même longueur d'onde que Walfred. Il regarda encore fixement vers le campement qu'il dépassait lentement et se languissait terriblement de son sac de couchage, de la bruyère sous les bottes et surtout de vêtements secs. Les habits de Walfred avaient été une bénédiction tant qu'il avait froid, mais maintenant qu'il s'était réchauffé, leur relent lui était presque insupportable. « Tu crois qu'il est tout à fait impossible d'y aller ?» demanda-t-il enfin. « Pas impossible, » répondit Walfred, « parce que rien au monde n'est impossible, Hansen. En tant qu'ancien militaire, tu devrais savoir ça. Si le physique est en ordre, et avec un peu de bol, on devrait pouvoir y arriver, mais ça exige une bonne et solide plaque de glace comme Ferry. Nager jusqu'à terre, ça, pas question. Personne ne peut tenir dans ce congélateur plus de quelques minutes. Hé, tu aurais dû avoir de la graisse de phoque sous la peau, Hansen, et des palmes entre les doigts de pied. Et là, t'aurais sûrement réussi, mais fait comme t'es fait, te voilà obligé de prendre ton parti, ici, à l'étage. » Allongé sur le matelas, il se délectait. Le soleil était chaud et généreux, et Walfred savait qu'il continuerait à l'être 24 heures sur 24. « Et d'un autre côté, on n'est pas dans le besoin, » continua-t-il peu après. « Nous avons de la viande en surabondance, » dit-il avec un hochement de tête en direction des trois phoques qu'ils avaient descendus, « et nous avons un réchaud, une casserole et plein de pétrole dans le réservoir. En plus, nous avons du schnaps et nous sommes transportés gratis, Dieu sait où. Ça aurait pu être pire. » N'empêche, quelque chose chez le lieutenant protestait. Là-bas, il y avait la tente, si près qu'il en distinguait chaque auban, si près et pourtant aussi loin que si elle se trouvait sur la côte de la Chine. Il avait du mal à se faire à l'idée que la seule chance d'un futur contact avec le monde extérieur dépendait de cette masse de glace compacte. Hansen était obligé de suivre l'iceberg là où il voudrait aller. Angoissé par cette question, il dit « Qui sait si on va jamais redescendre d'ici ?»
Il était un roi de Thulé, à qui son amante fidèle légua comme souvenir d'elle une coupe d'or ciselée. C'était un trésor plein de charme, où son amour se conservait. À chaque fois qu'il y buvait, ses yeux se remplissaient de larmes.
Voyant ses derniers jours venir, il divisa son héritage, mais il accepta du partage la coupe, son cher souvenir. Il fit à la table royale asseoir les barons dans sa tour, debout et rangés alentour, briller sa noblesse loyale.
Sur le balcon grondait la mer, le vieux roi se lève en silence. Il boit, frissonne, et sa main lance la coupe d'or au flot amer. Il la vit tourner dans le noir, la vague en s'ouvrant fit un pli. Le roi pencha son front pâli, jamais on ne le vit plus boire.
Mario, Marion et Léa nous ont lu Le roi de Thulé de Gérard d'Enerval.
Allt under den linden så gröna Jag ser min dotter, hon kommer till mig
I riden så
Var lika genom lunden med henne Och silig brann femnar ut kappan så blå Allt under den linden så gröna Där föder hon två karska svennbarnen på I riden så var lika genom lunden med henne.
Qui sait si on va jamais redescendre d'ici? Alors là, je peux te promettre qu'on va descendre. Walfred se mit le bras sous la tête, parce que c'est pas du tout impossible que cette cochonnerie chavire encore une fois. Et à ce moment-là, tu descendras plus vite que t'aurais voulu. Mais en supposant qu'il se tienne tranquille pendant quelques mois, il fondra, à peu près à la hauteur de New York, ça c'est clair. Hansen frissonna. Il n'avait pas spécialement envie de retourner à l'eau et pas la moindre envie de visiter New York. « Qu'est-ce qu'on devrait faire à ton avis, Walfred ? » demanda-t-il. « Eh oui, qu'est-ce qu'on devrait faire ?» Walfred regardait le lumineux ciel d'été. Si tu veux, on peut poster un gardien pour la forme, et pendant ce temps-là, l'autre peut se retirer quelques heures sous sa couette. Le lieutenant grimpa à la proue. « Je prends le premier quart. » « Au poil, » murmura Walfred, « et je me siffle un petit coup, histoire de me calmer les intestins. T'en veux ?»« Non, merci. » Hansen redressa le dos et fixa son regard aigu au-dessus de la baie des licornes dans laquelle il se trouvait maintenant. Je ne bois jamais en service. » Valfred pinça le bouchon hors de la bouteille. « Dieu te bénisse, petit Hansen. Alors ça ne te fait peut-être rien si je siffle ta ration à toi. Je veux dire, par là, qu'il vaut sans doute mieux garder un nombre pair de schnapps dans la bouteille. » « Vas-y. » Le lieutenant plissa les yeux et prit un air vigilant. « Hé hé !» Valfred clapa, frais et dispo après s'être rincé les gencives plusieurs fois. « Hé hé, avec une vigie de cet acabit, on peut tranquillement embrasser le foin une heure ou deux. Chante quelque chose, Hansen. Ça t'aidera, si tu fatigues et moi, ça ne me gêne pas. » Ils débouchèrent dans la mer du Groenland par marée basse et mirent le cap plein sud car l'énorme pied de l'iceberg plongea dans le courant froid de l'est du Groenland. Valfred dormait profondément, avec force bruit, et le lieutenant montait la garde. Assis et pas qu'un peu inquiet, il regardait la mer infinie. Il pensait que la vie était vraiment plus compliquée et instable qu'il n'aurait souhaité en fait, et de temps en temps, il se laissait aller à quelques pensées nostalgiques pour sa paisible ville de garnison et la tranquillité de la vie militaire. Il se rendit compte clairement que ça avait été un temps extrêmement agréable, une sorte d'éternel repos où l'on pouvait toujours placer les responsabilités plus haut ou plus bas selon les besoins. Ici, tout était différent. Au centre d'une assez grande superficie, il n'y avait que Valfred et lui, et il se trouvait à 10 mètres au-dessus d'une mer salée. Ici, il n'y avait personne à qui avoir recours. Personne pour donner l'ordre adapté. Pas de supérieur sur qui s'appuyer. Personne pour prendre la responsabilité, sauf si on comptait Valfred comme responsable, en vertu de sa position de chef de station. Mais Valfred ne faisait que dormir et prenait tout avec un calme oppressant. Hansen pensa longuement à tout cela et puis, plus il pensait, plus il se rendait compte que la réaction de Valfred était probablement la meilleure parce qu'en réalité, il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire que de se relaxer et de piquer un roupillon. Au fond, il n'y avait pas besoin de vigie ici, il n'y avait pas de bateau, pas de gens, rien d'autre que la mer, la glace et la côte lointaine. Et quand les yeux d'Hansen commencèrent à siller, il renonça, posa son bras sur le bastingage et s'endormit.
Glissons dans le sommeil, dans le rêve paisible, glissons deux, boule de pâte dans le bon four de la nuit, réveillons-nous au matin, deux pains de blé doré.
Ce matin à mon réveil,
les vitres étaient couvertes de givre.
Je me tenais au chaud dans les braises d'un bon rêve.
Et le poil répandait
dans la pièce
la chaleur
d'une bûche mijotée toute la nuit.
Tout le monde parle des couchers de soleil.
Tous les voyageurs sont d'accord pour parler des couchers de soleil dans les parages.
Il y a plein de bouquins où l'on décrit que les couchers de soleil.
Les couchers de soleil des tropiques.
Oui, c'est vrai, c'est splendide.
Mais je préfère de beaucoup les levées de soleil.
L'aube.
Je n'en rate pas une.
Je suis toujours sur le pont.
À poil.
Je suis toujours le seul à les admirer.
Mais je ne vais pas décrire les aubes.
Je vais les garder pour moi, seul.
La nuit est faite pour pleurer.
La nuit est faite pour pleurer.
Faite pour sourire et...
éternuer et hoqueter.
Faite pour tituber et rouler jusqu'au bout des étoiles. La nuit est faite pour pleurer.
La nuit est faite pour pleurer.
Faite pour déraisonner.
Se bourrer de hot dog et...
faite pour songer. Et se réfléchir dans les vitrines. La nuit est faite pour pleurer.
La nuit est faite pour pleurer.
Faite pour siffler du blues et...
tanguer et grogner.
Faite pour draguer. Et piller la chair et s'envoyer en l'air. La nuit est faite pour pleurer.
La nuit est faite pour pleurer.
Faite pour chavirer dans un fossé.
Tout réduire en miettes et...
faite pour...
oh, pourquoi, toi, ami, mourir.
Nous venons d'entendre deux textes de Olaf Hauge, « Sommeil » dit par Michael, et « Ce matin à mon réveil » par Théo et Emma. Nous avons eu ensuite Benjamin et Camille pour « Les couchers de soleil » de Blaise Sandras, et enfin « La nuit est faite pour pleurer » de Sigurdur Pelson par Camille, Salomé et Gilliane.
Valfred se réveilla le premier. Il se redressa brutalement et étendit le bras vers la bouteille de genièvre. « Qu'est-ce que je me disais » murmura-t-il. « Non !» C'était pas simplement un cauchemar. Maintenant, il est brûlant à cause du soleil. Putain de schnapps du matin. Il déposa précautionneusement la bouteille et tira son long couteau de chasse de sa gaine. Assis sur les bastingages délabrés qui faisaient face à l'iceberg, il s'est mis à creuser la glace. Le crissement et quelques éclats des glaces réveillèrent le lieutenant. « Qu'est-ce que tu fais, Valfred ? Le mur te gêne ? frigo en scène, le schnaps est bouillon et on peut pas infliger ça à un bon schnaps comme ça. Il tapait, fouillait et creusait avec le couteau les copeaux de glace sifflant autour de lui. Quand j'aurai fini ce meuble-bar, tu pourrais peut-être continuer avec un congélateur de bonne taille en scène. Il faut congeler la viande de phoque, tu comprends? Avant qu'elle ne s'égatte avec cette chaleur. Il rentra un bras dans le trou et balaya au dehors les éclats de glace. Voilà, maintenant je mets la bouteille à refroidir. Si tu prépares le congèle, moi je dépèce nos trois copains là et après je prépare le café. Une nouvelle journée sur l'iceberg avait commencé. Et quelle merveilleuse journée! Ciel haut et bleu sombre, soleil chaud comme un four. La glace dans la mer était dispersée et il voguait à une bonne vitesse de croisière en direction des Antilles.
Je suis sur la montagne et contemple la baie. Les bateaux reposent à la surface de l'été. Nous sommes des somnambules, des lunes à la dérive. Voilà ce que les voiles blanches me disent. Nous errons dans une maison assoupie. Nous poussons doucement les portes. Nous nous appuyons à la liberté. Voilà ce que les voiles blanches me disent. J'ai vu un jour les volontés du monde s'en aller. Elles suivaient le même cours, une seule flotte. Nous sommes dispersés maintenant, compagnes de personne. Voilà ce que les voiles blanches me disent.
Quand on se quitte, on quitte aussi tous ces lieux où nous sommes allés ensemble.
Les faubourgs peu fréquentés, leurs maisons tachées de fumée, où nous avons vécu un mois, ville où nous avons dormi.
Leurs noms sont oubliés, hôtels puants d'Asie, où nous nous réveillons parfois, dans la chaleur de midi, comme si nous y avions dormi mille et une années.
Et toutes les petites chapelles de montagne, quasi inaccessibles, sur la route d'Athènes à Delphes, où les lampes à huile brûlent toute la nuit d'été.
Nous les quittons aussi quand on se quitte.
Duncan nous a fait partager le texte de Thomas Tranströmer, De la montagne, et nous avons entendu Olivia et Coraline pour Quand on se quitte, de Henrik Nordbrandt.
Quand le lieutenant eut fini son trou profond, et qu'ils en étaient au café et au schnapps du matin maintenant refroidis, il proposa à Valfred de partager les provisions en rations quotidiennes. Mais Valfred pensa que c'était idiot, parce que personne ne savait combien de jours devait durer leur villégiature sur l'iceberg. « On bouffe ce qu'on a, Hansen. » Quand il n'y en aura plus, on en retrouvera. Le pire, c'est pour l'eau de vie. Ça, ouais, faudrait peut-être la rationner. Il regarda le petit trou noir d'un air pensif. Mais d'un autre côté, un seul schnaps par jour, c'est positivement de la torture. Buvons plutôt ce qu'il y a, et quand ce sera fini, on se priera. Il secoua la tête et se mit à glousser. Cette histoire d'être privé de boisson me rappelle d'ailleurs le pire hiver que j'ai jamais vécu. Il y a une dizaine d'années de ça environ, j'avais un compagnon qui était un peu à côté de la plaque, tu vois. Plus tard, il s'est d'ailleurs pendu à une poutre du plafond de chez lui. Mais ça, c'est une autre histoire.
Voilà, ainsi se termine la première heure de cette émission consacrée aux poètes du Grand Nord. Vous avez entendu certainement quelques tramways qui passaient sur la banquise, des oiseaux qui chantaient, des cornes de brume, etc. Merci à tous les élèves de la classe de Magali, Françoison et de la classe de Marigola d'avoir participé à ce premier set, ce premier ring, ce premier, qu'est-ce qu'on dit en boxe, oui, ce, un premier, je sais plus, un premier round. Merci, merci Lily. À la technique, il y avait donc évidemment Lily, Arnaud Rofast et Sébastien de Radio Campus. On les remercie et je propose qu'on applaudisse aussi, tous les enfants qui ont participé à cet énorme travail. Vous pouvez réécouter cette émission donc sur Radio Campus, mais également sur Radio Clapas et Radio Aviva. Et elle est toujours en archive permanente sur le site www.michelarbatz.com. À très bientôt pour la deuxième partie de cette émission. Avant que nous nous retrouvions pour la deuxième partie de cette émission, je voudrais remercier spécialement Cécile Combaudet et Charo Beltran qui ont préparé avec moi cette émission, Marigola évidemment et Magali Françoison, peut-être aussi créditer les musiques que nous avons utilisées dans cette émission, Graham Allwright qui chantait Sacré Bouteille, de longs extraits de Jan Garbarek, des extraits de la troisième symphonie du compositeur suédois Einar Englund, le groupe nordique Est et le groupe folklorique Galarhorn. Pardon, mon suédois est à travailler. À bientôt.